tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-France Dupré et Sophie Pérez, conteuses au sein du collectif Contes et Bricoles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vos voix ne sont pas inconnues de nos auditeurs, puisqu'on vous retrouve dans l'émission Tout ça, c'est des histoires. Et puis, pour vous, Marie-France, dans l'émission L'Arbre Bleu. Et vous êtes à mes côtés aujourd'hui pour annoncer le prochain rendez-vous de votre collectif. Ce sera une après-midi dédiée au conte des frères Grimm. Ça se passera le 25 octobre, le mardi 25 octobre à 14h30, à la Maison pour tous de Rechèvre, c'est à Chartres, pendant les vacances scolaires. C'est tout l'intérêt. Alors, avant de découvrir avec vous ce que vous nous réservez, bien, je voudrais revenir un petit peu sur vos parcours respectifs. Comment avez-vous l'une et l'autre franchi la frontière entre quelqu'un qui aime se perdre dans d'autres mondes et quelqu'un qui finalement les crée ?
Eh bien, comment dire ? Je crois que les histoires m'ont toujours intéressée, mais pas seulement intéressée dans la tête. Au niveau d'une réflexion ou de quelque chose de très intellectuel. Je pense que les histoires, on se laisse un peu séduire par elles, par ce monde-là. C'est un monde de l'enfance, mais pas seulement. Et voilà, ça m'a toujours intéressée. Mais quand j'ai eu un peu plus de temps, que j'ai décidé, puisque j'ai eu la chance de pouvoir décider d'arrêter de travailler quand je pensais que ce serait bien, eh bien, j'ai eu envie d'aller voir de ce côté-là. J'ai entendu parler donc, du Centre de littérature orale de Vendôme, avec Bruno de la Salle. Je suis allée voir de ce côté-là, et voilà. Et là, j'ai été séduite, bien sûr, par le conte, ce monde-là, et en même temps, dans un certain vertige, parce que ça fait peur, quand même, de se lancer, de raconter devant d'autres ou devant un micro.
Voilà. Pour vous, Sophie ?
Alors, moi, les contes, voilà, comme beaucoup de gens, j'ai écouté des contes et j'ai lu des contes quand j'étais petite. Et moi, j'ai une formation de comédienne, donc effectivement, le fait de parler devant des gens, ça ne m'a pas trop gênée. Mais par contre, le travail de conteur, je n'avais aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler. Et donc, c'est au détour d'un stage que j'ai pu découvrir cette activité, ce métier, voilà, tout cet univers des contes. Et donc j'ai fait un stage, et puis j'ai participé à un atelier, et puis j'ai découvert des contes, j'ai voulu en chercher d'autres, et voilà comment j'ai mis le pied dedans, et quand j'en suis pas ressortie ensuite, quoi, pour vraiment développer ça plus tard.
Alors vous insistez quand même toutes les deux sur l'apprentissage de l'art de conter. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce qu'il y a des techniques ?
Bon, des techniques, oui, après, tout dépend du parcours du conteur. C'est vrai que pour l'instant, sauf erreur, il n'y a pas de conservatoire du conte, même s'il y a des formations qui sont tournées autour de ça. C'est encore un art jeune. En tout cas, de façon scénique, je ne parle pas des grands-pères et des grands-mères qui racontaient au coin du feu. Voilà, le côté métier de conteur du spectacle, c'est quand même assez récent. Donc, on va piocher dans le théâtre, on va piocher dans la musique. Donc, on essaie de... Voilà, de composer chacun avec sa sensibilité, sa façon de raconter, quoi. Il n'y a pas d'école, enfin, il y a des courants en fonction des différents conteurs, des influences, mais il n'y a pas une façon de faire. Chacun est assez libre de faire son chemin, quoi.
C'est ça qui est tentant, quand même. Enfin, tentant, je veux dire, en même temps, c'est pas, ça peut ne pas être rassurant, mais c'est superbe parce que tout est encore possible. Alors, le renouveau, ce qu'on appelle le renouveau du conte, ça s'est passé dans les années 70 avec des gens comme Bruno de la Salle, Pepito Matteo plus tard, et Michel Hindenock, enfin, et tout Henri Gougaud, enfin, tous ces conteurs qui sont maintenant très connus et qui ont essayé de parler du conte et d'avoir une exigence par rapport à ce qu'est le conte et les conteurs, justement pour que ce soit pas un art mineur, entre guillemets, quelque chose comme ça de gentil en plus, que font des gens qui ont un petit peu de temps, qui sont gentils avec les enfants.
Ou du sous-théâtre, sous-littérature, quoi. Que ce soit vraiment quelque chose à part entière.
Et avec donc l'exigence et la reconnaissance, quoi. Donc il y a tout un travail qui a été fait là-dessus, avec, comme disait Sophie, des écoles différentes, des gens qui insistent sur des aspects différents du conte et des manières différentes d'être conteur. Mais tout le monde se retrouve à peu près sur cette exigence. Maintenant, ce vers quoi ça évolue, on a un peu l'impression, c'est vers quelque chose qui soit beaucoup plus un spectacle. Mmh. Total, enfin je pense que c'est qu'un spectacle total, mais quelque chose où on allie beaucoup, plusieurs arts, etc. Bon, et les conteurs plus anciens trouvent que c'est un peu souvent trop un habillage du conte et que c'est bien aussi d'être dans le conte.
À la parole nue,
voilà,
vraiment,
la parole nue, c'est déjà énorme, quoi.
Alors justement, comment est-ce qu'on se sent conteur ? Est-ce qu'il y a un moment où. On a conscience de réussir à conter.
Bah déjà, on a envie de raconter des histoires. Ouais. Il y a des histoires qu'on découvre, qui nous attrapent, et on se dit, c'est pas possible, il faut absolument que je la raconte, cette histoire-là. Et c'est comme ça, on voit si vraiment il y a une rencontre avec une histoire, on va trouver des affinités, on va trouver des images, on va trouver des formulations qui fait que... Alors, c'est pas évident non plus, hein, ça se travaille aussi. Mais c'est surtout ça, c'est surtout la rencontre avec des histoires qu'on a envie de partager, parce que c'est pas possible que ça nous ait fait cet effet-là et que ça le fasse pas à d'autres. Mmh. Donc, en tout cas, pour moi, au début, ça a été vraiment ça, quoi. Il faut absolument que je la raconte, pas possible de faire autrement, quoi.
Mmh. Et c'est vrai que, après, donc on est touché par une histoire, on se dit, je ne peux pas ne pas la raconter.
C'est voilà. Ça aussi pour vous, Marie-France, c'est vraiment la rencontre avec une histoire.
Alors quelquefois, quelquefois je me suis trompée, c'est-à-dire je me suis dit, oh, cette histoire, elle me plaît bien, mais peut-être que c'était pas si clair que ça, que c'était parce qu'elle était assez simple, que je l'avais entendue une fois, je me disais, allez, je peux la raconter. Non, c'est quelquefois, je me suis dit, non, je me suis trompée, enfin, cette histoire-là, elle me touche pas suffisamment, j'arrive pas, enfin... Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux se dispenser. On n'est pas obligé. Enfin, on choisit les histoires qu'on raconte. Et puis, on rencontre aussi des conteurs qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Il y en a plein qui n'ont pas du tout la même attitude. Moi, j'ai rencontré des conteurs ou des conteuses qui disaient presque, ou ça arrive quelquefois, pas à moi directement, mais à d'autres, je vous interdis de raconter cette histoire, c'est la mienne. Et on peut comprendre, parce qu'il y a eu un tel travail qui a été fait autour, et cette façon de raconter cette histoire-là, c'est la façon de quelqu'un, et on n'a pas le droit de la copier. Mais il y a aussi d'autres conteurs. J'ai rencontré un jeune conteur qui avait fait un livre d'une histoire africaine et qui me l'a dédicacé en disant « J'espère que cette histoire vous touchera autant qu'elle m'a touchée et qu'elle vous accompagnera et que vous la raconterez à d'autres. » Enfin, voilà. Et donc ça, on sait pas, on peut dire qu'à ce moment-là, on se sent presque investi d'une mission. Il faut la raconter. Parce que c'est ça, la tradition orale. Il y a tout, enfin, j'allais dire, tout est dit au fur et à mesure. Plus j'entends parler, plus j'entends des histoires, plus j'en raconte, et plus je me dis, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Tout est dit. Enfin, je veux dire, il y a suffisamment d'histoires pour que chacun puisse essayer de comprendre le monde et les questions que tout le monde se pose. C'est toujours les mêmes, hein, la vie, l'amour, la mort, la violence. Voilà. Tout est raconté, mais on peut encore en raconter parce qu'on les raconte différemment.
Bien sûr. Voilà. Alors justement, conter, c'est mettre beaucoup de soi. Alors pas forcément dans le contenu, puisque ce sont des histoires qui peuvent exister depuis très très longtemps. Justement, comment est-ce qu'on trouve sa place dans cet héritage-là ? Comment est-ce qu'on imprime sa personnalité au conte ?
Alors ça, ça c'est une bonne question. Déjà, parmi toutes les histoires, donc voilà, prenez l'exemple du conteur qui voulait pas parce que c'était son conte. Déjà, on peut contourner un peu le problème en essayant de trouver des variantes, puisque chaque conte a des dizaines de variantes en fonction des cultures. Donc déjà, on peut voir si on se retrouve plus ou moins dans un type de conte, dans une culture d'un pays qui est pas forcément proche au niveau de ses origines ou de son vécu, mais on se sent des affinités. Donc déjà, il y a moyen de trouver... de trouver son chemin là-dedans. Après, sa personnalité, c'est je pense, une des difficultés, c'est d'accepter d'être soi avec ses mots, pas vouloir forcément faire de belles phrases quand on parle, accepter, en tout cas, de la façon dont nous, on le pratique, d'autres personnes le pratiquent un peu différemment, mais c'est vrai que, notamment, Michel Hindenog, dans ses formations, insiste sur le fait que c'est nous qui parlons avec nos mots, il utilise l'expression de la langue maternelle. C'est pas une langue, c'est pas les souliers du dimanche, quoi. On met pas des jolis mots. On parle comme nous, quand on partage une expérience de notre vie. Il faut arriver à faire en sorte que le conte, ça devient un souvenir qu'on peut raconter comme on raconte quelque chose de notre vie. Donc, et c'est là la difficulté, parce que Faut arriver à trouver cette sincérité, cette simplicité. C'est pas facile, facile. Et c'est là qu'on est nous-mêmes aussi et qu'on arrive à trouver
des choses. En même temps, on parle de menteurs. C'est-à-dire qu'on est les plus fiefés menteurs du monde, quoi. Parce qu'on, mais il faut raconter les histoires comme si on y était. C'est ça qu'il nous est dit souvent. Et ce que je voulais dire par rapport au travail du conte, puisque c'est vraiment un travail, c'est aussi que c'est important de le faire avec d'autres. C'est-à-dire que, moi je pense qu'il y a plusieurs métiers comme ça, celui que je faisais avant aussi, mais il faut sans arrêt continuer à travailler et continuer à travailler avec d'autres, donc en atelier, en stage, et c'est ça qui est super. Enfin, moi je me souviens d'un stage que j'ai fait au Clio, j'en ai fait plein, mais où il y avait des conteurs que moi je considère comme des pros, et qui étaient avec nous, quoi. Et à la limite, on échange, on raconte devant les autres, ils vous renvoient comment ils ressentent, comment là on pourrait améliorer. Comment...
Il y a une vraie communauté du conte.
Oui, alors ouais. Avec les aléas d'une communauté et d'un groupe, c'est-à-dire les jalousies, les conflits, les luttes de pouvoir, ça il y a aussi, hein, mais aussi une complicité, une entraide. Et ça, c'est superbe aussi. Enfin, voilà, c'est une communauté humaine.
Alors vous avez évoqué l'une et l'autre la rencontre que vous avez pu avoir avec certaines histoires. Alors, lesquelles? Et est-ce que vous avez chacune peut-être un univers dans lequel vous vous sentez plus à l'aise?
Alors, de mon côté, bah, j'aime bien aller explorer tout ce qui est un univers un peu sombre, un peu des histoires qui font peur, des histoires avec des personnages un petit peu troubles. C'est vrai que c'est des univers que j'aime bien explorer. Ou au contraire, un côté complètement facétieux, avec des contes d'animaux, où ça saute partout, ça court partout. Donc voilà, c'est un peu les deux axes où j'aime bien aller me promener. Mais bon, voilà, après, ça peut arriver au détour d'une lecture ou d'une racontée, que je tombe sur une histoire qui n'est pas dans ce créneau-là et qu'elle me parle pour une raison X ou Y. Mais vraiment, il se trouve que ça résonne, et du coup, je vais avoir envie de la raconter. Mmh. Donc pour moi, ce serait plutôt ces deux aspects-là. Pas toi, si tu as...
Moi, j'aime bien, enfin, je me trouve assez bien dans ce qu'on appelle les contes merveilleux, c'est-à-dire les contes classiques, enfin, un peu... Mais j'explore aussi, j'essaye d'explorer d'autres choses. Je me suis rendu compte que j'aimais bien les histoires assez courtes, enfin que j'aimais bien. J'aime bien, et c'est là où je suis le plus à l'aise. Enfin, quand je dis histoire assez courte, c'est à peu près 20 minutes, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà très bien.
Voilà, oui, oui. Mais pas encore, j'ai pas encore raconté d'histoire. Si je fais un spectacle, enfin, je fais des spectacles qui durent une heure et quart, quand je suis toute seule. Mais à ce moment-là, je prends plusieurs histoires. Et là, je suis en train de me dire que peut-être j'allais explorer du côté des petites histoires de la grande histoire, parce que, je ne sais pas, j'ai retrouvé... Ouais. Je suis à une période de ma vie où j'ai retrouvé des livres qui étaient dans la maison de mes parents, qu'on ne m'a pas forcément raconté, mais que moi j'ai lu, et je me dis, oui, il y a peut-être des histoires à raconter de ce côté-là. Je ne suis pas très à l'aise avec les histoires d'Afrique, les contes d'Afrique, mais j'en ai quand même raconté quelques-uns. Et peut-être que j'irai voir un peu plus un jour, mais peut-être pas du tout, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, et ce sera bien comme ça.
Alors, on va venir à cet après-midi, donc du 25 octobre, le mardi, à partir de 14h30. Donc, je rappelle que ce sera à la Maison pour tous à Rechèvre. Alors, vous nous proposez une après-midi donc autour des contes de Grimm, et notamment Le Vaillant Petit Tailleur. On va y revenir. Avant ça, un petit mot quand même sur ce choix. C'est vrai que les contes de Grimm, on a l'impression de les connaître par cœur. C'est peut-être faux.
Ben c'est ça, justement. On a l'impression de les connaître par cœur. On en connaît certains très bien, les Blanche-Neige, j'ai pas plus de contes de Grimm, réponse, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ben, Le Vaillant Petit Tailleur aussi, ça fait un grand conte. Mais déjà, pourquoi ne pas les raconter? C'est pas parce qu'on les connaît très bien que ça interdit de les revisiter régulièrement. Et aussi, voilà, ça permet aussi d'aller trouver des histoires qui ne sont pas dans les grands classiques, puisque le recueil des contes pour la famille et le foyer, c'est, je ne sais plus combien il y a de contes là-dedans, mais il y a deux volumes énormes, donc on n'en connaît pas tant que ça, finalement, dans les contes de Grimm. Donc voilà, aller explorer ces histoires-là. Puis j'ai trouvé des histoires à faire peur là-dedans. Alors, moi,
j'allais vous dire, ça doit satisfaire votre, votre goût pour les contes qui font peur.
C'est vrai que Grimm est quand même beaucoup moins policé que Perrault dans certaines versions, et c'est vrai que la version de Cendrillon, notamment, est beaucoup plus crue que celle de Perrault.
Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers? Parce que justement, c'est quand même assez particulier. Les contes de Grimm, quelque part, on peut même les discerner des autres assez facilement.
C'est vraiment l'image, si on peut dire une image, parce que ce ne sont pas des images, mais c'est les images qu'on se crée. C'est vraiment l'image du conte, quoi, l'image du conte merveilleux.
Oui. Voilà.
Quand on pense conte, les gens qui ne connaissent pas très bien le conte, ils pensent Perrault et Grimm, quoi. Mais comme disait Sophie, on n'en connaît pas tellement. Et puis même ceux qu'on connaît, on croit les connaître. Parce que un de mes petits-enfants m'a encore montré l'autre jour tout fièrement un ensemble de petits bouquins où il y avait... c'était un recueil des contes de Grimm, justement. Et il m'a dit, est-ce que c'est les vrais? Et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le temps de regarder maintenant. Mais souvent, il y a trop souvent des recueils de contes où il y a des versions complètement édulcorées, quoi. Et donc ça, c'est terrible. Je trouve que c'est dommage, vraiment dommage. Donc je pense que les enfants d'aujourd'hui, ils ont quand même souvent une version un peu édulcorée des contes. Donc ça vaut le coup, je crois, de leur raconter Il n'y a pas la vraie version, parce qu'il n'y a pas une vraie version, il y en a plein. Et, mais ça vaut le coup que, qu'ils puissent écouter le conte entier, déjà. Et puis, oui, le conte vraiment tel qu'on peut le raconter en vrai, quoi.
Qui dit beaucoup de la vie.
Bien sûr, ça m'a rappelé, ça me, ton anecdote, est-ce que c'est le vrai ? Je me rappelle, j'avais fait la première année de colporteur, j'avais animé un stage, et donc il y avait des petites filles qui avaient vu le dessin animé Réponse, et qui voulaient absolument raconter le dessin animé. Je dis, mais vous savez, l'histoire du dessin animé, c'est pas exactement l'histoire de Grimm, et donc j'ai raconté un petit peu, en allant très vite, l'histoire de Grimm, notamment l'épisode des souliers de fer. Des souliers de fer qu'elle devait user pour retrouver, voilà, ce détail des souliers de fer, ça a été vraiment, et elles sont venues à un spectacle que Marie-Christine Loubry racontait, voir d'une histoire, et il y avait ce détail dans une autre histoire des souliers de fer, et ça a été vraiment le truc, mais voilà, ce détail-là qui n'est pas dans le dessin animé de Disney que j'ai pas vu, mais il me semble pas qu'il y ait ce détail-là. Et vraiment, ça leur a ouvert un truc, c'était complètement... Et c'est dommage, du coup, d'édulcorer ce genre de détails. L'histoire est quand même pas très gaie, mais ce détail-là, ça a ouvert un imaginaire qui est complètement lissé par ailleurs. Donc c'est intéressant de retourner de temps en temps.
Et puis ça fait écho à des peurs d'enfants aussi, c'est
C'est vrai que Grimm, c'est la forêt, on se perd dans la forêt, il y a des ogres, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez... univers assez... Oui, ça ouvre merveilleux derrière.
Est-ce que vous-même, vous avez des contes de Grimm que vous préférez ?
Alors, je sais pas, j'aime beaucoup ceux-là, enfin, ceux que Sophie va raconter, là, Hansel et Gretel. Alors, tout le monde a l'impression de la connaître par cœur, cette histoire-là. Et en fait, y a différentes façons de la raconter, et c'est une histoire que vraiment j'aime bien. Et puis, donc l'autre aussi, l'homme...
L'homme à la peau d'ours
aussi. Et puis ceux que je vais raconter, donc le vaillant petit tailleur et puis l'âne, non, la table, l'âne et le gourdin. Alors ça, c'est des contes dont il y a plusieurs versions, surtout le deuxième, la table, l'âne et le gourdin. Il y a plein de versions suivant suivant les pays, suivant les régions. Enfin bon, c'est étonnant. Mais j'aime bien ces contes qui se... qui ont des rythmes où on a l'impression que ça se répète, mais justement ça fait partie de l'escalier à grimper. Et puis j'aime bien aussi les contes, mais ça il y en a pas mal, j'en dirais pas un particulier, mais souvent dans les contes merveilleux comme ça, et c'est le petit dernier, ou bien celui que tout le monde méprise, ou celui où on se dit vraiment il est limite débile, quoi. Et ben c'est lui qui trouve les solutions, c'est lui qui arrive, c'est lui. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, et voilà, j'aime bien. Puis j'aime bien cette ambiance où comme disent les conteurs plus expérimentés, ben c'est vraiment comme si on y était, quoi. On raconte ça, c'est complètement délirant, mais on raconte ça comme si on racontait le marché au coin de la rue, quoi.
Sophie, des petits préférés ?
Alors, donc la version de Cendrillon de Grimm est quand même très, très, très intéressante, où justement, il y a pas trop le côté cruche chez Cendrillon qu'il peut y avoir chez Perrault, où elle est vraiment totalement passive. Là, il y a quand même un peu plus d'action. Les Sept Corbeaux.
Ah oui.
Ça, les Sept Corbeaux, c'était vraiment une histoire de mon enfance où ma grand-mère me racontait avec un luxe de détails la petite sœur qui se coupe le petit doigt pour le mettre dans la serrure, et c'était vraiment la grosse peur. Elle prend le couteau, elle se coupe le petit doigt, déjà, toute petite. Et voilà, c'est je dirais ces deux histoires-là de Grimm qui m'ont bien marquée.
Est-ce qu'on sent un petit peu, quand on conte des histoires de Grimm, peut-être je veux dire le poids, mais enfin l'héritage, le patrimoine aussi qu'on véhicule, parce que ça fait vraiment partie de l'imaginaire européen.
Il faut essayer de...
On essaie de s'en détacher.
De s'en détacher, oui, parce que sinon, c'est vrai que... Ben, le vaillant petit tailleur et Hansel et Gretel, voilà, qu'on va raconter. Les deux autres sont peut-être un peu moins connus, mais ces deux-là, c'est quand même deux...
C'est des monuments, hein.
Deux monuments, quoi. Ouais, faut essayer de se dire que voilà, c'est une histoire et qu'il ne faut pas la traiter autrement qu'une autre histoire.
Et en même temps, y a un peu peut-être le sentiment, enfin moi je n'y pense pas du tout quand je raconte, mais là en en parlant peut-être, c'est comme si on était dépositaire de quelque chose qu'on a à transmettre. Et c'est ça vraiment, raconter des histoires. Parce que des amis quelquefois ou des gens me disent, sachant que j'aime bien écrire, est-ce que c'est des histoires que tu as écrites, inventées toi-même, ou est-ce que... Et moi ça me viendrait même pas. Enfin si, une fois dans une scène ouverte, j'ai raconté une histoire que j'avais écrite moi-même, mais je l'ai pas refait deux fois parce que je me dis, il y a tellement d'histoires à raconter, à transmettre. voilà, que c'est pas la peine, quoi.
Marie-France, Sophie, merci beaucoup. On va bien sûr vous retrouver lors de cet après-midi. Donc, je le rappelle, le mardi 25 octobre à 14h30, autour de. Donc, il y en a quatre contes, oui, de Grimm, c'est ça. Donc, on sera au rendez-vous. Et avant de se quitter, peut-être un mot de votre collectif, donc Contes et Bricoles, que nous suivons à Radio Grand Ciel, oui, depuis quelques temps. Où en est-il, ce collectif? Comment est-ce qu'il vit? Voilà. Mm-hmm. Un peu des nouvelles de Contes et Bricoles.
Alors, dans Contes et Bricoles, on a fait donc la deuxième édition de Colporteur, la tournée des conteurs en février de cette année. Mm-hmm. Et donc, c'est posé la question d'une troisième édition. Donc, on s'est réunis, on a réfléchi et on s'est dit quand même que sur une année pour préparer cette semaine-là, c'était quand même énormément de travail. Qu'on n'était pas forcément tous disponibles, qu'il y avait des allées-venues aussi, des membres qui partaient, d'autres qui arrivaient dans le collectif, et que peut-être que ce serait plus judicieux d'attendre une année de plus pour vraiment faire quelque chose d'un peu renouvelé et d'assez complet aussi, parce que là, en gros, on avait le temps de faire la même chose que l'année dernière, donc c'est pas forcément très intéressant aussi pour le public de pouvoir proposer des choses... Oui. Des choses plus complètes ou nouvelles ou d'approfondir certaines choses. Donc en 2017, il n'y aura pas une semaine de contes, mais il y aura une journée quand même qui sera consacrée aux contes dans les maisons pour tous au mois de février. On a envie de garder quand même, oui, cette période de l'année. Donc ce sera fin février le 24, je crois.
Oui.
La date, je crois que c'est le vendredi 24. Donc il y aura des contes pour les tout-petits, pour les grands, enfin voilà, un peu le même genre de formule qu'on a pu proposer.
Il y aura quand même un rendez-vous.
Voilà, il y aura un rendez-vous. Mais ce sera sur une journée, dans une des maisons pour tous. Bon, encore, c'est pas encore calé au niveau des lieux et de la distribution exacte. Et par contre, la formule colporteur sur une semaine, comme on a pu le faire les deux autres années, ce sera plutôt pour 2018. Et là, voilà, on va vraiment prendre le temps de proposer quelque chose d'assez abouti, qui correspond bien à ce qu'on a envie de faire, de proposer.
Est-ce qu'il y a une complémentarité entre vous? Entre tous les conteurs de votre collectif? Ou c'est pas forcément quelque chose...
On est un peu sur la même école, puisqu'on s'est rencontrés dans des ateliers, oui, voilà, où on est un peu dans le même état d'esprit, on va dire. Mais après...
Après, on est chacune différente, Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'on s'est dit cette année, c'est qu'on allait se voir quand même de façon assez régulière. Oui. Parce que quand il y a cette régularité-là, on travaille mieux. Enfin, on travaille différemment. Alors, on se voit quelquefois parce qu'il y a des problèmes, des questions techniques, pratiques à résoudre, mais aussi pour raconter devant les autres et avoir le retour. Enfin, et on peut faire les deux et c'est ça qui est bien, quoi. Donc, pour faire ça, il faut se donner des dates régulières.
Bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler donc de ce prochain rendez-vous. Je le rappelle, mardi 25 octobre à 14h30 à la Maison pour tous de Rechèvre à Chartres. Merci.
Merci.
Merci.